Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens est un ouvrage de psychologie sociale destiné au grand public, écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Il ne présente pas la manipulation comme un don mystérieux ou une simple perversité individuelle, mais comme un ensemble de procédés observables, étudiés expérimentalement, qui orientent les décisions sans recourir à la contrainte directe. Son idée centrale est celle de l'engagement une personne qui a choisi librement une première action tend à rester cohérente avec ce choix, y compris lorsque les conditions deviennent moins favorables. Les auteurs analysent ainsi des méthodes rencontrées dans la vente, la publicité, le travail, la vie associative et les relations ordinaires, notamment le pied dans la porte au nez et certaines formes de leurre. Le livre a une double finalité. Il aide à identifier les mécanismes par lesquels une demande obtient un accord et invite aussi à réfléchir aux limites éthiques de leur emploi. Sa forme accessible relie concepts, situations concrètes et enseignements de la recherche. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la théorie de l'engagement explique pourquoi une petite décision pèse durablement. Le fil directeur du livre est la théorie de l'engagement, selon laquelle un acte accompli dans un contexte de liberté apparente modifie la manière dont une personne se situe face à ses décisions ultérieures. Il ne suffit donc pas de connaître les opinions ou les intentions déclarées pour prévoir un comportement. Une action, même modeste, peut créer une pression de cohérence. Celui qui a accepté une première démarche est davantage porté à accepter ce qui lui paraît en prolonger la logique. Cette idée éclaire un paradoxe important. Une personne peut maintenir un choix alors que des coûts ou des inconvénients, initialement peu visibles, apparaissent ensuite. Elle ne le fait pas nécessairement parce que la demande est devenue objectivement raisonnable, mais parce que revenir en arrière signifierait rompre avec son propre acte. Les auteurs distinguent ainsi la persuasion fondée sur les arguments de la manipulation qui organise les circonstances du choix. Cette approche déplace la question au lieu de demander seulement comment convaincre. Elle examine comment obtenir un premier comportement. Le livre montre que le sentiment de liberté peut paradoxalement renforcer le mécanisme, car la personne attribue son acte à sa propre décision plutôt qu'à une pression extérieure. Comprendre cette dynamique permet de repérer les engagements précoces qui préparent des concessions plus importantes. Deuxièmement, le pied dans la porte transforme une demande mineure en préparation comportementale. La technique du pied dans la porte consiste à solliciter d'abord une action facile, peu coûteuse et difficile à refuser, avant de formuler une demande plus exigeante. Son efficacité ne repose pas uniquement sur la sympathie ou sur la politesse. La première acceptation fournit un comportement concret à partir duquel la personne peut se percevoir comme coopérative, disponible ou concernée par le sujet. La demande suivante paraît alors moins isolée, elle semble suivre naturellement le geste initial. Le livre insiste sur le fait que ce processus peut se produire dans des contextes très variés, depuis une interaction commerciale jusqu'à une requête entre proches ou collègues. Une question anodine, un service limité ou une signature peuvent donc avoir une fonction stratégique qui dépasse leur importance apparente. Cette analyse ne signifie pas que toute progression de demande est malveillante. Elle donne plutôt un critère de vigilance, il faut examiner le lien réel entre le premier accord et ce qui est demandé ensuite. Si la première étape a été présentée comme neutre alors qu'elle sert à créer une disponibilité psychologique, le consentement mérite un réexamen. La réponse défensive la plus utile consiste à évaluer chaque demande selon son coût propre, sans traiter une acceptation passée comme une obligation de poursuivre. Cette séparation limite la force de la cohérence exploitée par autrui. Troisièmement, la porte au nez exploite le contraste entre un refus attendu et une concession apparente. Avec la porte au nez, la séquence est inverse, une demande initiale volontairement excessive est suivie, après un refus prévisible, par une proposition plus modeste. La seconde demande peut alors sembler raisonnable par contraste, alors qu'elle aurait pu être jugée coûteuse ou intrusive si elle avait été formulée seule. Les auteurs présentent ce procédé comme une technique de négociation et de sollicitation qui agit sur la perception relative des concessions. La personne sollicitée peut aussi éprouver une forme de réciprocité puisque le demandeur semble avoir réduit ses prétentions, elle peut se sentir invitée à faire elle aussi un pas. Le mécanisme ne dépend donc pas seulement du contraste chiffré entre deux requêtes. Il repose sur une lecture sociale de la situation, où une concession affichée appelle une concession en retour. Cette logique explique pourquoi le refus initial ne constitue pas toujours une protection suffisante. Il peut faire partie du scénario prévu. Le livre invite à ne pas évaluer une proposition finale par rapport à une exigence extravagante, mais par rapport à ses propres besoins, ressources et limites. Cette règle est particulièrement pertinente lorsque les échanges sont rapides, que la demande initiale crée une surprise ou que le demandeur impose un rythme de décision. l'analyse rend visible une influence qui se cache dans la comparaison plutôt que dans le contenu explicite de la seconde proposition. Quatrièmement, amorçage et leurs commerciaux maintiennent le choix après une information tardive. Le livre étudie aussi les procédés où une décision est obtenue avant que toutes les conditions pertinentes soient clairement connues, dans une logique de leurre ou de bascule. Une offre attractive ou une première décision amène la personne à se positionner, puis des contraintes, frais ou difficultés auparavant secondaires deviennent saillants. L'enjeu psychologique est alors de savoir si elle abandonnera réellement son choix. La théorie de l'engagement prévoit souvent une persistance après avoir envisagé un achat. Accepter un rendez-vous ou commencer une démarche, il devient plus difficile de renoncer, même si la situation a changé. Le coût déjà investi peut être faible, mais le besoin de rester cohérent avec sa décision peut suffire à maintenir l'action. Les auteurs ne réduisent pas ce phénomène à une naïveté individuelle. Ils montrent que le contexte de présentation de la décision compte fortement ordre des informations. Impression de libre choix, visibilité des alternatives et caractère public ou privé de la première acceptation. Cette analyse possède une portée pratique pour les consommateurs comme pour les professionnels. Elle incite les premiers à vérifier les conditions avant tout, engagement effectif, et les seconds à distinguer une communication loyale de la dissimulation stratégique. La vigilance consiste notamment à considérer une information nouvelle comme une raison légitime de réviser son choix, plutôt que comme un détail qui devrait être absorbé pour rester fidèle à une décision antérieure. En dernier lieu, une lecture à double usage impose de distinguer influence efficace et relations éthiques. La particularité du livre tient à son ambiguïté assumée. Les techniques décrites peuvent servir à déjouer des tentatives de manipulation, mais aussi à augmenter les chances de voir une demande acceptée. Les auteurs exposent des mécanismes dont l'efficacité a été étudiée sans les confondre avec une doctrine morale complète de la relation humaine. Cette position rend la lecture intellectuellement utile, mais elle impose une responsabilité au lecteur. Employer une technique pour obtenir un consentement qui ne serait pas accordé après une information claire revient à exploiter la structure de la décision plutôt qu'à respecter le jugement de la personne. A contrario, comprendre ces procédés peut améliorer la communication lorsqu'il sert à formuler une demande précise, à choisir un moment approprié ou à favoriser une participation réellement volontaire. La frontière éthique dépend alors de plusieurs éléments de transparence sur les enjeux. Possibilité effective de refuser, proportion entre la demande et le premier engagement et absence de coût caché. Le livre se distingue de nombreux guides de persuasion par son ancrage dans la psychologie sociale expérimentale et par son attention aux situations ordinaires où chacun peut être influencé sans en avoir conscience. Il ne promet pas une immunité totale. Il fournit plutôt un vocabulaire et des repères pour ralentir la décision, reconnaître les séquences préparées et restaurer une capacité de choix plus lucide. En conclusion, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens conviendra aux lecteurs qui veulent comprendre les ressorts concrets de leurs décisions quotidiennes consommateurs. Salariés, responsables associatifs, étudiants, professionnels de la vente ou de la communication. Mais aussi personnes désireuses de mieux poser leurs limites dans les échanges ordinaires. Son bénéfice principal est moins de fournir des formules toutes faites que de rendre visibles des enchaînements souvent discrets, une petite faveur préalable. Une demande excessive suivie d'une réduction, une information importante révélée après un premier accord. En identifiant ces structures, le lecteur peut évaluer séparément chaque sollicitation et se donner le droit de modifier une décision lorsque les conditions changent. L'ouvrage peut également intéresser ceux qui réfléchissent aux usages responsables de l'influence. Il rappelle que la capacité à obtenir un accord ne prouve ni la qualité de la demande ni la liberté réelle du consentement, par rapport à de nombreux livres de développement personnel consacrés à la persuasion. Sa différence majeure réside dans son socle de psychologie sociale et dans la place accordée aux recherches expérimentales sur engagement. Il examine moins le charisme ou la rhétorique que les conditions situationnelles qui rendent un comportement probable. Cette orientation donne au livre une portée durable, il aide à comprendre des techniques précises tout en invitant à questionner le cadre éthique dans lequel elles sont utilisées. Sa lecture est donc particulièrement pertinente pour développer une vigilance pratique sans réduire toute relation humaine à une stratégie de contrôle. Si vous souhaitez soutenir Beauvois Joule, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.